Divergence numérique, troisième émission en ce mois de novembre. On vous souhaite à tous eh bien, un bon mois de novembre, même s'il touche à sa fin. Et que ben, pour les fidèles lecteurs de Linux Magazine France, à l'heure où ils nous écoutent, eh ben, le mois de novembre, il est déjà passé aux oubliettes. On est avec Anthony de l'espace culturel multimédia, Diago Kawenga à Montpellier, avec Jean-Claude Stigler et Albert Brugge de LinuxFrench.net. Et par la pensée avec Léa Linux, puisque dorénavant et d'ores et déjà, cette émission est faite en collaboration avec Léa Linux, Linux French, Divergence FM et évidemment le CM Diago Kawenga en la personne d'Anthony, spécialiste des logiciels libres. Une émission sur les logiciels libres, vous le savez, sauf si vous l'écoutez pour la première fois. Et ce soir, eh bien, pas mal de choses. Bonsoir à tous les trois d'abord.
Bonsoir Gilles et bonsoir à tous.
Bonsoir Gilles.
Et bonsoir à tous.
Voilà, ils sont reposés malgré que la journée a été plutôt agitée, puisque à Montpellier, ce jeudi 27 novembre, eh bien c'était la journée du libre à Montpellier. C'était pour nous l'occasion de faire un retour là-dessus, pour vous l'occasion d'y être dans la journée. Notamment, il y a eu une communication assez intéressante d'un de nos amis militaires, parce que les logiciels libres comptent aussi des amis militaires, et ça troue. On écoutera aussi de la musique, on va parler des multimédias et du libre, notamment de la vidéo avec Anthony qui nous a préparé un petit truc là-dessus. Et puis l'actualité du libre, ça va démarrer tout de suite. Ensuite, on parlera d'un pseudo-manifeste d'André Pasquale que Jean-Claude a décortiqué, que moi-même j'ai lu. Je crois que ça pose un problème interne au monde du libre en quelque sorte. Et puis je crois que nous aurons peut-être la chance d'avoir un des développeurs de la Mandrake 9.2.
Oui, tout à fait. Nous aurons la joie et l'avantage d'entendre Warly, qui est l'un des principaux développeurs de la société Mandrake Soft, et qui viendra nous parler un peu de la Mandrake 9.2, qui est sortie il y a déjà quelques semaines, et qui est maintenant disponible dans toutes les bonnes crèmeries et dans tous les bons FTP. Et voilà.
Voilà, la Mandrake 9.2, pour ceux qui l'ignorent, eh bien c'est mieux que votre système d'exploitation favori, Mac ou pas Mac, ou Windows, ça marche, et puis c'est tout nouveau, c'est vient de sortir. C'est un système d'exploitation, comme on dit.
Et ça marche aussi sous Mac.
Sous Mac, voilà. Ça marche aussi sous Mac.
Une nouvelle version de la 9.2, d'ailleurs, de Mandrake Soft, va être bientôt disponible sur PowerPC, donc sur les Mac, en fait.
Voilà, et c'est à savoir que Mandrake est le seul éditeur de solutions libres en France.
Hein, on peut même dire le seul éditeur de système d'exploitation en France.
Enfin, plus maintenant, puisqu'il y en a un homme, mais un nouveau, en fait, qui vient d'apparaître, qui s'appelle Nagios. C'est une nouvelle distribution, qui est une distribution communautaire, mais qui est, en fait, existante depuis hier. Donc, on en reparlera lors d'une prochaine émission, sans doute en janvier.
Voilà, et puis un petit peu plus tard, on fera un compte-rendu à chaud de la journée du logiciel libre à Montpellier, et puis un petit agenda pour terminer. On aura aussi de la musique avec Johnny, le guitariste, Johnny Asia, le guitariste du futur, ça c'est pas commun, et puis avec Third Section aussi, qu'on est allé pêcher in extremis, aujourd'hui même. On va démarrer avec les actualités du libre. Alors, au rayon actualité, qu'avons-nous, mis à part, toujours les épineuses questions de brevets, de virus, de tous les gens qui pleurent parce qu'ils ont acheté Windows XP.
On a toujours à peu près les mêmes problèmes, c'est-à-dire que le UCD, ce qui concerne le droit privé sur la copie, est toujours en phase d'être accepté, selon des termes plus ou moins précis par le gouvernement. La situation est un peu, on va dire, dans un brouillard. Mmh. Assez flou. Ça devrait être voté normalement au mois de mai 2004 maintenant. On attend. En fait, au niveau du UCD, on est vraiment dans l'attente. Concernant les brevets logiciels, une nouvelle, c'est-à-dire pas très amusante, c'est notre cher État français, notre cher gouvernement qui se pose des questions sur la validité de ce qu'a fait le Parlement européen et qui demande un délai de réflexion supplémentaire. Donc, il faut attendre aussi de ce côté-là. On est vraiment dans l'expectative. On est dans le mois de novembre, dans un mois où l'expectative est notre seule action pour l'instant.
Je vois que Jean-Claude tique.
Oui, je ne tique pas, mais je voudrais apporter quelques précisions concernant le UCD. C'est vrai que le projet du gouvernement viendra devant le Parlement au printemps. Je crois que c'est pas gagné du tout pour le gouvernement, parce que le projet là hérisse quand même énormément de gens. Le fait aussi qu'il y ait une collusion de fait entre la présidente de la Commission européenne, qui est Madame Fourtou, dont le très aimable époux est lui-même président de Vivendi Universal, ça pose un gros problème, et ça pose un gros problème à beaucoup de gens, aussi bien au Parlement européen qu'au Parlement français. Donc je pense que les choses ne seront pas aussi simples que cela. Maintenant, pour ce qui concerne le débat et la position du gouvernement français sur la directive telle qu'elle a été votée par le Parlement européen au mois de septembre, Monsieur Jean-François Copé, c'est bien Jean-François, je crois que je me trompe pas.
C'est Jean-François.
Porte-parole du gouvernement a dit de façon très sibylline qu'il y avait des choses à revoir, mais sans préciser du tout lesquelles. Et c'est vrai que là, ça reste très hypothétique, et ça nous rappelle, mais je crois que nous en avions tous conscience déjà, qu'il faut absolument rester vigilant et qu'il faut continuer de faire pression. Quand je dis pression, c'est dans le meilleur sens du terme, c'est-à-dire d'appeler à la vigilance nos décideurs, que ce soit dans des entreprises ou dans des administrations.
Tout à fait. Il faut rappeler aussi que, bon, Alstom essaye d'être racheté ou redressé par l'État français. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que bon, ça concerne 400 000 personnes, le cas Alstom, et que le cas des brevets logiciels comprend plus de 10 millions de personnes. Alors qu'on fasse quelque chose pour Alstom, ça se comprend, 400 000 personnes en Europe, c'est beaucoup, mais qu'on ne voit pas le problème des brevets logiciels et le fait que ça mette plus de 10 millions de personnes en Europe sur le tapis, je trouve que c'est un peu difficile. Par contre, c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes lobbying. Alstom, c'est une seule boîte et une seule grosse entité. Les 10 millions de personnes qui travaillent dans l'informatique et qui seraient victimes des brevets logiciels sont des tas de petites sociétés, mais bon, quand même 10 millions, c'est quand même plus de 400 000 personnes.
Voilà, rappelons dans cet ordre d'idées, dans cet ordre de grandeur, que rappelez-vous la publicité de l'artisanat français, premier employeur de France, etc. Donc c'est des notions qu'il faut garder à l'esprit, d'autant que les collectivités elles-mêmes ou les gouvernements, s'ils sont pas trop au fait des logiciels libres, ils risqueraient quelque part de s'enlever, avant même de s'en rendre compte, un outil dont ils auraient plus pu se passer s'ils l'avaient eu, tout en le sachant, si vous suivez mon raisonnement.
Oui, moi je suis parfaitement d'accord, et un petit lien avec la journée du logiciel libre à Montpellier qui a permis d'avoir deux interventions qui à mon avis ont été vraiment marquantes, c'est celle de Éric Filliol qui est de l'école militaire qui s'appelle l'ESAT où l'on forme les ingénieurs spécialistes en sécurité informatique, et par ailleurs de Éric Bullier qui lui est à l'IAE à Montpellier, donc école d'infanterie, qui nous ont tous les deux démontré de façon absolument c'est l'institut d'administration, qui nous ont tous les deux démontré de façon absolument formelle que la sécurité informatique passait par les logiciels libres. Alors, si quelqu'un est bien placé pour parler de sécurité, je crois que c'est vraiment les spécialistes militaires de la sécurité.
Oui, Albert, je crois que nous avons des invités.
On a une surprise de dernière minute. C'est l'un des principaux représentants de Hall qui a organisé la journée du logiciel libre à Montpellier.
Et qui organise les last jeudi.
Et qui fait partie de l'administration de l'association jeudi, parce que la jeudi, c'est une entité un peu différente. Nous a fait l'honneur de venir aujourd'hui.
Et voilà, il faut parler dans le micro, Albert.
Voilà. Pardon. Et qui va nous parler de la journée, après la pause musicale.
Voilà, un petit peu après Onirayon actualité, que dire d'autre?
Non, il se passe pas grand chose ce mois-ci. Au niveau des virus, ça s'est un peu calmé. Si, il y a quand même une histoire assez amusante, c'est le cas des CD-ROM LG. Ce sont des CD-ROM qui ont causé un problème à l'installation à partir de Mandrake ou de Suse.
Ça va être le dernier. Pardon, excuse-moi de t'interrompre. Les lecteurs de CD-ROM.
Voilà, les lecteurs de CD-ROM.
LG étant une marque de lecteurs de CD-ROM.
Oui. Qui fait d'ailleurs autre chose que des lecteurs de CD-ROM. Qui a fait que quand on installait la Mandrake ou la Suse, mais aussi d'autres nouvelles distributions, les lecteurs de CD-ROM étaient grillés. Donc en fait, au début, on a commencé un peu à accuser Mandrake et Suse d'être responsables de cet état de fait. En fait, ce n'est pas du tout le cas. C'est LG qui ne pas respecté la norme de construction des lecteurs CD-ROM et qui faisait que son lecteur se grillait. Depuis, les choses sont revenues dans l'ordre. Et d'ailleurs, ce qui a été encore plus amusant, c'est que vu que le logiciel libre, le code source est ouvert, des pirates ou des méchants créateurs de virus sous Windows ont pris le code qui permettait justement de griller ce CD-ROM et en ont fait un virus qui est maintenant disponible pour Windows sur Internet. Donc on peut dire que grâce à Linux, quelque part, le premier virus libre est apparu. pour Windows.
Oui, une petite précision pour ceux à qui il serait arrivé cette malheureuse mésaventure.
Un patch existe.
Le patch existe et les lecteurs de CD-ROM n'en sont en réalité pas grillés, mais inopérants. Et il est très possible, il est tout à fait possible en appliquant ce patch sur le BIOS du lecteur de CD-ROM de récupérer le lecteur lui-même et d'avoir un lecteur qui fonctionne, que ce soit sous Windows ou sous Linux.
Si on le fait à temps, ce qui est encore plus amusant, c'est le cas d'ordinateur Dell qui était vendu certifié Linux et qui possédait ce type de CD-ROM.
Très bien, bon ben voilà pour l'actualité de cette troisième émission de Divergence Numérique. On va parler maintenant avec Anthony, à moins qu'on remette ça à plus tard pour profiter de la présence de nos invités. Un petit tour de table. Oui, est-ce qu'on fait ça, un retour sur les Journées du Libre?
On va faire un retour sur la Journée du Libre après voilà. Une pause musicale.
Voilà, alors on va écouter notre ami, le guitariste du futur, Johnny Asia, qui était déjà actif à l'époque divine et délirante de Woodstock, qui va ici nous interpréter un blues du futur. Sa musique est libre de droit. Et si tous les vieux babos de l'industrie musicale rendaient leur musique libre de droit, on aurait une foultitude de musique. Voilà, on l'écoute. Un petit peu de guitare, ça réchauffe l'âme. On est donc avec Pascal de l'association Hall pour bien faire un retour sur cette journée du libre à Montpellier qui s'est tenue aujourd'hui. C'était à l'hôtel d'agglomération et ça s'est plutôt bien passé.
Oui, bonjour, bonjour. On en sort juste là, les infos sont toutes fraîches effectivement. Ça a commencé ce matin, j'allais dire à 9h parce que c'était l'heure d'ouverture. Non, ça a commencé à 6h pour ceux qui se levaient pour aller tout préparer. Tout Hall était sur le pied de guerre ce matin donc. Ça a démarré donc à 9h avec un mot du président pour nous dire un petit bonjour. Jean Bord nous a fait l'honneur de souhaiter la bienvenue à tous les invités et de dire un grand merci à tous ceux qui nous ont hébergés, nos sponsors, la préfecture de région, le AI, Netimedia, Nérim qui étaient nos sponsors et bien sûr l'hôtel de région d'agglomération, ne pas confondre,
ouais.
qui nous hébergeait. Tout ça s'est merveilleusement bien passé. En deux mots, on fait un petit tour sur les différentes prestations qu'ont eu lieu, les présentations. Loïc Dachary, qui n'est plus à présenter sur ces ondes de la FSF, nous a fait un joli, je dis très joli, exposé sur les brevets logiciels en direct live sans transparent, et c'était extraordinaire parce que il a une façon de présenter les choses en douceur, et sa technique de faire écrire des recettes de cuisine aux gens qui étaient dans la salle et reprendre ce modèle-là pour expliquer ce que c'est qu'un logiciel libre et l'intérêt de breveter ne serait-ce qu'en GPL et de l'intérêt de ne pas breveter en autre chose que GPL était extraordinaire. On a eu une petite frayeur, j'en profite pour passer quelques anecdotes. Une petite frayeur parce que Loïc Dachary devait finir son exposé à 10h. À 10h moins 5, l'avocat qui suivait n'était toujours pas là. Il a eu des problèmes d'avion et il nous a rejoint au dernier moment. Le fait est que Joël Hélo, donc de Yailo, avocat parisien, donc il a fait le tour, il a fait le voyage pour nous rendre visite, a fait son exposé, tout bien, tout honneur. Il était lui parti sur un aspect, je m'adresse à des professionnels du logiciel libre et je vais, moi avocat, expliquer ce à quoi il faut faire attention pour vous professionnels qui œuvrez dans le logiciel libre. Il est apparu que l'Assemblée a un petit peu réagi bizarrement parce qu'effectivement, il s'adressait à des gens qui connaissaient bien le logiciel libre et certaines personnes ont compris. Ah, mais ce qu'il est en train de dire, ça ne concerne pas que les logiciels libres, ça concerne aussi les logiciels propriétaires. Bon, il y a eu un petit quiproquo, un petit échauffement. Loïc Dachary n'a pas laissé passer. Il a repris ça en main magnifiquement. Il a compris très rapidement qu'en fait, Joël Hélo œuvrait pour les professionnels du libre en leur donnant des billes pour dire faites attention à ça pour ne pas vous faire embêter, pour ne pas vous faire avoir. Et c'était magnifique. Magnifique prestation effectivement aussi de Éric Filliol dont vous avez parlé juste avant. Avec son laboratoire qui vient du laboratoire de virologie de l'ESAT et de cryptologie, qui a fait une belle démo en ligne. Nos personnels des administrations qui étaient là tout ouïe à voir tout ce qui pouvait se passer dans un point doc ou qui pouvait passer par un point doc avaient du mal à avaler leur salive. Donc il a fait une très belle démonstration de ce qui pouvait être fait.
Peut-être que Jean-Claude peut justement rebondir là-dessus.
Oui, précision pour nos auditeurs qui ne sont pas forcément familiers du langage informatique. Un point doc, cela veut dire au travers d'un document émanant d'un fichier Word.
Microsoft
Word.
D'accord. Et pas forcément émanant d'OpenOffice enregistré en point doc.
Non, pas du tout.
D'accord.
Ben non, la grosse différence justement, c'est qu'un OpenOffice, on peut voir avec nos yeux d'humain ce qu'il y a dedans. C'est un texte lisible, c'est du XML, on va pas rentrer dans le détail, mais je vois ce que j'ai écrit. Alors qu'un point doc, c'est propriétaire, c'est caché, j'ai pas les specs pour les spécifications qui sont secrètes et propriétaires de Microsoft pour savoir ce qui est fait. Donc, et ça aussi, ça a été abordé longuement dans plusieurs exposés de la journée. C'était cet aspect caché qu'il y a dans les logiciels propriétaires. On a eu plusieurs exemples de cas de logiciels propriétaires. Je veux pas citer de nom en particulier où le témoin expliquait. Il y a des API, des points d'entrée secrets et non documentés dans ce logiciel-là. Je suis, moi, à la merci de quelqu'un qui connaît bien le système, il peut utiliser ces choses-là sans que j'en sois averti, sans que je sache ce qui va se passer réellement.
De celui qui a fait le système.
C'est un des critères classiques qui est reproché au système propriétaire en termes de sécurité, c'est « je ne sais pas ce que fait le logiciel que j'utilise ». Alors que le logiciel libre à l'opposé, on sait, puisqu'on a les sources, enfin, je ne vais pas revenir sur les détails techniques, mais le fait est que c'est fondamental en termes de sécurité. Revenons sur la JLM, repas très animé, tout le monde s'est bien amusé, on est revenu à 14h sur les planches. Pascal Fédel de l'Alpe du Lact, qui est donc une association française, enfin qui œuvre au niveau territorial français, mais dont le siège est à Montpellier, donc ça nous concerne tous très directement, nous a fait l'honneur de nous présenter ce que faisait l'Alpe du Lact. C'était particulièrement intéressant. Il y a énormément de choses en cours, déjà faites, en cours et prévues pour nos structures administratives.
Oui, ce qu'il faut dire, c'est que l'Alpe du Lact, c'est une association qui essaye de privilégier le libre dans les administrations. Elle ne s'adresse pas directement au grand public, mais c'est aux administrations plus souvent territoriales, c'est-à-dire mairies, départements, régions, et voilà.
Qui en ont bien besoin des logiciels libres.
Non, et justement, c'est, je crois que ça a été la session qui a généré le plus de questions. Venait après Jean-Yves Soussol, chargé de mission des NTIC et logiciels libres à la préfecture de région. Jean-Yves Soussol nous a fait, cette personne qu'on était sponsorisé par la préfecture de région. C'est quelqu'un qui aime bien les logiciels libres, qui a compris les avantages que lui pouvait en tirer, que la région pouvait en tirer. Il nous a longuement expliqué qu'une préfecture de région a cela de particulier, que contrairement à ces ministères anciens, voire poussiéreux, qui sont chacun dans leur chapelle avec leurs problématiques et surtout ils ne veulent pas entendre parler d'autres, de ce qui se passe chez les autres, vous imaginez la conséquence en termes d'informatique, chacun œuvre dans son coin et surtout on ne partage rien et ça fait autant d'argent du contribuable dépensé. La préfecture de région a parmi ses missions le fait de fédérer les investissements qui sont faits en particulier dans les logiciels, c'est le cas de Jean-Yves Soussol à la préfecture de région, et de faire en sorte que les efforts soient partagés. Quand un effort est fait dans un domaine, il soit partagé par tous ces ministères. Donc son exposé était particulièrement intéressant de ce point de vue-là, et là encore, il nous a montré que les logiciels libres étaient une des solutions, et voire la solution qui pouvait l'aider à œuvrer dans ce domaine, de par l'interopérabilité naturelle qui était offerte par les logiciels libres en particulier. La journée s'est finie avec deux témoignages particulièrement intéressants. Monsieur Agussol de l'IUFM de Montpellier. L'IUFM, c'est cet organisme qui enseigne à nos maîtres, les maîtres qui forment les instituts qui eux forment nos enfants. Et qui nous a raconté de façon tout à fait pragmatique, et c'est ça qui est extraordinaire dans son exposé. Ce monsieur Agussol donc présente son exposé de façon très simple, sans mettre en avant le fait qu'il est pro Microsoft ou pro je sais pas quoi. Il arrive sur son exposé, il me dit, moi c'était ça mon problème, j'avais ça à résoudre, j'avais des utilisateurs qui voulaient faire ça. Moi du côté licence, j'avais du mal à suivre parce que je n'arrivais plus à payer mes licences. J'avais de vrais problèmes de sécurité, j'avais des vrais problèmes de maintenance de mon réseau. J'ai dû prendre des décisions. En 2001, j'ai commencé à brancher des logiciels libres un petit peu partout sur mon réseau. Aujourd'hui, toutes mes machines sont en logiciel libre. Alors, pas à 100%. Il y a encore du Windows, il y a encore du Word, parce que ces utilisateurs, ce sont les enseignants qui enseignent aux maîtres, aux instituts. Eux aussi ont leurs habitudes, eux aussi surtout ont leurs besoins. Si quelqu'un a quelque chose de bien précis, il respecte ce besoin-là. Donc dual boot, donc multi-installation, mais OpenOffice est installé partout. Et depuis 2 ans, il a vu que OpenOffice prend des parts de marché internes dans sa structure, avec de plus en plus de formateurs qui utilisent OpenOffice, pour ne prendre que cet exemple-là. Son browser pour tout le monde, c'est Mozilla. Et il nous a cité comme ça toute une série de logiciels libres qui ont été installés dans sa structure, aussi bien du côté serveur que du côté client, et il en est ravi. Et encore une fois, c'est ce côté non chapellistique de son témoignage qui était particulièrement intéressant. Les logiciels libres ne concernent pas que des étudiants attardés chevelus qui discutent entre eux, ça concerne vraiment des gens qui ont un métier, qui ont un travail à faire et qui résolvent leurs problèmes avec un logiciel libre.
Et ça concerne aussi la sécurité nationale, puisque il s'est encore agi de ça pour le dernier témoignage.
Albert nous rappelle que Microsoft est un généreux donateur pour les établissements scolaires. Effectivement, Monsieur Agussol nous a effectivement aussi rappelé les réductions auxquelles il avait le droit du côté Microsoft, parce que c'est un institut national et que de par ce fait, il a droit à des réductions monstrueuses. Il nous a aussi très clairement expliqué, oui, la première année, on nous proposait 80% de réduction. La deuxième année, il n'est plus question de réduction. On paye le prix fort de la licence. Moi, j'ai un intérêt évident à ne pas utiliser Word et quand j'ai des nouvelles machines, à mettre OpenOffice dessus. C'est Monsieur Agussol qui parle.
Et puis il a raison, parce que pourquoi acheter un mauvais produit cher quand on peut avoir un bon produit pas cher?
Ah, ça, c'est une réflexion qui date déjà d'il y a un certain temps.
Mais j'aime bien enfoncer les portes.
Bien sûr, bien sûr. On peut faire mieux, mais c'est moins cher avec les logiciels libres. Et la journée s'est terminée avec une présentation d'Éric Bullier de l'EAI, l'école d'application de l'infanterie. Donc des militaires, il nous a expliqué qu'ils étaient 800 personnes sur le site, il avait 600 machines en réseau qu'il fallait gérer. Et il nous a raconté de façon très pratique sa démarche pour passer toute son infrastructure logicielle sur des logiciels libres. on a bien senti que Éric Bellier était un homme de terrain. Il a fait les choses, il nous a expliqué comment il les a faites, il nous a expliqué les problèmes qu'il a rencontrés. Et son exposé était particulièrement intéressant pour ça. Une question a été posée lors de cette session qui était particulièrement intéressante parce qu'elle résumait bien la différence qu'il y avait entre un témoignage tel que celle de l'UFM, M. Agussol, qui devait faire les choses en douceur, accompagner ses utilisateurs, respecter leur choix. J'ai besoin de Word parce que j'ai mes cours qui sont écrits en Word avec des macros, etc. Je ne peux pas le reprendre comme ça en OpenOffice. Et M. Bullier, qui lui a eu la chance d'avoir un parc de machines qui lui était dédié, qui lui a permis de mettre les choses en place. Et une fois que c'était en place, il a abaissé la manette et voilà, maintenant votre réseau est en logiciel libre. Jean-Claude, c'est toi qui a fait qui avait posé la question. Comment as-tu trouvé la réponse de Éric Bullier?
Ah, mais j'ai trouvé sa réponse excellente. Mais ce qui m'a semblé caractéristique dans la démarche d'Éric Bullier, c'est de façon entre guillemets autoritaire de dire à ses utilisateurs, dorénavant, vous allez travailler avec du logiciel libre, chose qui n'est pas vraie dans beaucoup d'autres entreprises, l'IUFM entre autres, puisque M. Agussol nous a bien détaillé sa démarche, mais qu'on a tous tendance à faire lorsque moi je vais installer une distribution de Linux sur l'ordinateur d'un de mes amis ou d'une connaissance qui m'a demandé de le faire. En général, on me demande de faire du double boot, c'est-à-dire que les gens veulent conserver Windows. Et j'avoue que jusqu'il n'y a pas très très longtemps, je le faisais vraiment avec bonne volonté. Et puis maintenant, j'avoue que je suis très résistant à cette idée et je vérifie si l'utilisateur a véritablement besoin de conserver son système d'exploitation propriétaire. Si ce n'est pas le cas, je lui explique les excellentes raisons pour lesquelles il faut dorénavant basculer entièrement en logiciel libre. Ça me donne beaucoup de tranquillité ensuite, puisque je n'ai plus d'appel téléphonique pour me dire « Mais tu sais, là j'ai encore ramassé un virus avec mon courrier, je suis désolé, mais je t'embête encore un peu, mais je recommencerai plus. »
Voilà, il faut... Pardon, quelques chiffres pour finir.
C'est ce que j'avais demandé.
En beauté, pardon, merci. La JLM 2003 aura été une grande journée. On a comptabilisé environ 200 personnes qui sont venues nous voir. Ça a fait plaisir à tous les membres organisateurs, puisque savoir fédérer toutes ces énergies et savoir fédérer tous ces gens qui sont intéressés par le logiciel libre en une journée, et certains ont laissé tomber leur travail, d'autres se sont débrouillés, 200 personnes dans la journée. Pour information, la société IDAT, qui a pignon sur rue, qui a beaucoup de moyens et qui a organisé récemment à Montpellier 3 jours professionnels sur l'informatique en général.
On en avait parlé sur Divergence.
Ce qui était très intéressant d'autre part. Leur schéma n'était pas le logiciel libre, mais ils parlaient de beaucoup d'autres choses. Ont déplacé 600 personnes en 3 jours, ce qui était très bien vu. C'était un très bon chiffre. On a fait 200 personnes en une journée. Je crois qu'on peut être fier de ces chiffres.
Sans frais d'inscription.
Sans frais d'inscription. Quelques chiffres encore au fur et à mesure de la journée. La matinée a commencé doucement puisque 25 personnes étaient dans l'amphi au début. Et on a culminé à plus de 80 personnes à ce magnifique exposé de Monsieur Filliol sur la virologie et sur les virus informatiques. En milieu de journée, c'était une belle courbe de Gauss qui nous a permis de voir l'ampli se remplir presque au maximum.
Oui, ça c'est normal, dans le midi, on a toujours du mal à se réveiller.
Mais je crois que c'était un franc succès en fait.
Oui, nous on est contents, on est prêts à repartir. Rendez-vous en 2004 sur Divergence FM.
Alors faut préciser que l'association Hall a trouvé aussi une fréquence sur Montpellier. Je crois que c'est celle du 93.5 de Radio Clapas.
Oui,
on n'est pas concurrent, hein, c'est pour ça que je peux,
non, j'entends bien. Et Clapas parle de Divergence FM également. Non, effectivement, il nous arrive on démarre une série d'émissions sur Radio Clapas, orientées logiciel libre avec un certain nombre de sujets tels que le logiciel libre et la citoyenneté, tels que le logiciel libre, la bureautique, tels que le logiciel libre et l'art, etc. Enfin, des émissions sont en cours de préparation sur Clapas. 93.5.
Voilà, 93.5. Et puis sur 93.9, a priori, je crois que on va faire une petite pause musicale avec Third Section. Albert me fait un petit signe que je n'arrive pas à interpréter. Que se passe-t-il?
Oh, 2 minutes.
Oui, voilà. Justement, en attendant notre prochaine invitée par téléphone.
Voilà, je crois que nous sommes en ligne avec Warly pour parler de la sortie de la Mandrake 9.2. Bonsoir, allô.
Bonsoir.
Voilà, je vais laisser la parole à Albert, que je crois vous avez rencontré au RMLL.
Oui, tout à fait.
Voilà. Bonsoir Warly, bonsoir. Tu es l'un des principaux développeurs de Mandrake. Tu fais aussi partie de l'équipe de développement de Mandrake Soft. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que ça représente et dans quel esprit tu fais ça?
Ben, l'équipe de développement de Mandrake Soft, ça reste quand même pas mal de personnes qui sont assez jeunes et assez passionnées par Linux en général. Pour donner un ordre de grandeur, il y a environ une vingtaine de développeurs à proprement parler, qu'on peut étendre à 30 personnes si on inclut la partie qualité, test, etc., et la partie documentation et traducteur. Et ça, c'est la partie, on va dire, employée de Mandrake Soft. À côté de ça, il y a toute une communauté de développeurs que je chiffrerai entre 50 et 100, suivant qu'on en inclut un peu les personnes qui sont actives, très actives, etc. Et ça, c'est vraiment les personnes qui créent la distribution. Donc ça reste un projet quand même qui est très ouvert sur la communauté, sur le monde du livre en général.
Oui, ça c'est vrai que c'est une des forces de Mandrake, d'être ouverte, contrairement à d'autres distributions, à des utilisateurs et à des créateurs de pactage pour sa propre distribution externe.
Tout à fait. Pour un ordre de grandeur, par exemple, dans les 7000 pactages à 9.2, il y en a un peu plus de 30% qui sont faits par des personnes qui ne sont pas des employés de Mandrake Soft Société Commerciale, qui sont des membres de la communauté Mandrake Linux en général.
D'accord. On peut aussi rajouter une bande de terroristes qu'on appelle PLF et qui aussi, des pactages.
Tout à fait. Donc il y a un ensemble de personnes qui créent des pactages qui sont, on va dire, à la limite de la légalité, tout ce qui est un petit peu copie de DVD, etc., etc. Donc ça, c'est le groupe PLF, qui sont basés principalement sur la Mandrake et qui sont en fait membres des contributeurs. À vrai dire, c'est un petit peu une communauté mélangée. Il n'y a pas vraiment d'un côté PLF, de l'autre côté Mandrake, même si nous, Mandrake Soft, nous n'avons absolument aucune connaissance de ces personnes terroristes, c'est vrai. Mais c'est la même communauté en tout état de cause.
Oui, bonjour Warly, Jean-Claude de Linux Friends. Je voudrais apporter une précision à ce sujet, parce que faut pas oublier que nos auditeurs ne sont pas des pros de l'informatique, mais des auditeurs, tout simplement. Donc quand on parle de terroristes de PLF, il faut ramener les choses à la juste mesure. Il s'agit, Mandrake distribue des produits qui respectent scrupuleusement la légalité, qu'elle soit française ou américaine, ou d'autres pays d'ailleurs.
Hein,
donc sur le plan international, il faut qu'elle puisse être distribuée tranquillement, sans contrevenir à aucun texte de loi. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a des sujets qui sont... tu parlais de DVD à l'instant, et ça me paraît très très important. Tous les gens qui achètent un disque DVD-ROM, c'est-à-dire un film, ont le droit de le lire, quel que soit le système d'exploitation de leur machine. Or, on refuse ce droit... Enfin, la loi américaine en particulier refuse ce droit aux gens qui ont un système d'exploitation Linux. Donc le PLF, par exemple, permet à tous les gens qui disposent d'une distribution de Linux, que ce soit Mandrake ou une autre distribution, de lire ces DVD tranquillement sous Linux. Et en faisant ça, on viole la loi américaine, mais on ne viole pas du tout la loi française. Donc les gens, je prends cet exemple parce qu'il me semble très très parlant, les gens qui s'occupent de diffuser des pactages PLF diffusent en fait des choses qui ne sont pas illégales, mais qui sont propriétaires, voire illégales dans certains pays.
Mais pas dans d'autres.
Mais pas dans d'autres.
Une autre question. La 9.2, bon, c'est l'une, on va dire aujourd'hui, c'est l'une des mandrakes les plus abouties, du moins c'est la dernière. Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus par rapport à l'évolutivité. Merci. Depuis la mandrake 5.2 par exemple.
Il y a quand même beaucoup de chemin qui a été parcouru depuis effectivement la 5.2, ça fait 4 ans en arrière, donc 4 ans dans le monde du Linux, ça reste une éternité presque, parce qu'à l'époque on n'avait pas du tout d'installation graphique, c'était encore assez austère, il y avait juste le début de KDE, donc il y a l'interface graphique, c'était vraiment assez balbutiement. En 9.2 on arrive quand même à un système où il y a plusieurs interfaces, GNOME, KDE, etc. qui sont ergonomiquement très aboutis et très proches de ce qu'on peut trouver sous d'autres systèmes comme Macintosh ou bien Windows. En termes de nombre, par exemple, de programmes disponibles, la 5.2 devait avoir de l'ordre de peut-être 800 ou 900 programmes. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, maintenant, on est à plus de 7000. Mmh. Donc il y a presque une multiplication par 10 depuis 4 ans. Je pense qu'en termes de personnes qui travaillent sur la distribution aussi, ça a énormément augmenté, même si la société Mandrakesoft, elle, a connu un petit peu une baisse en termes de nombre de salariés. Cela dit, pour faire vite là-dessus, depuis la 9.1, donc qui était la distribution précédente, Mandrakesoft commence à revenir à un état beaucoup plus sain en termes d'économie et de finances. Donc on a déjà un peu plus de sérénité par rapport à ça. Donc la 9.2 s'est faite encore dans des conditions un peu difficiles sur le plan de la société. Mais en tout cas, la situation s'améliore. Donc on est de plus en plus serein par rapport à ça. Et donc là, 9.2, donc il y a eu le petit problème LG. Je crois que vous en avez touché un mot tout à l'heure. Hormis ça, c'est vrai qu'on considère que c'est une des distributions les plus abouties qu'on a faites, grâce énormément à la communauté qui nous permet d'avoir beaucoup de tests, beaucoup de retours, et toujours grâce au monde du logiciel libre en général, qui permet d'avoir des logiciels qui sont de plus en plus intéressants, compétitifs et complets.
Alors moi j'aurais une petite question en tant que candide, naïf et inculte.
Oui.
Alors ce problème LG, c'est un scénario qui, si ça arrivait la même galère, si ça arrivait à Microsoft, je pense qu'ils n'hésiteraient pas à mettre tout un staff d'avocats pour poursuivre LG, pour leur dire vous n'avez pas respecté le truc, donc nous on est discrédité, on perd de l'image de marque, etc. Est-ce que vous chez Mandrake, est-ce que quelque part vous avez contacté les gens de LG pour leur dire il faudrait voir de respecter les normes parce que nous on passe pour des ploucs?
D'ailleurs, c'est un petit peu ce contact avec LG qui a retardé la sortie en disponibilité des ISO de la 9.2, donc qui est disponible gratuitement sur Internet. Je ne sais pas si vous avez expliqué tout ce principe
nous l'expliquons régulièrement
à vos auditeurs. Donc tout à fait, le contact avec LG, c'est ce qui a permis d'avoir, ce qui a malheureusement causé 2 ou 3 semaines de retard, mais c'est ce qui a aussi poussé LG à sortir sur son site tout un ensemble de correctifs pour ses lecteurs incriminés, qui permettait de corriger le problème et éventuellement de réparer les disques qui avaient été endommagés. Donc nous, on est plus basé Mandrakesoft sur le plan de la négociation, c'est-à-dire que dans la mesure où la boîte, la société commerciale qui a un problème ou éventuellement qui nous cause un problème, on a plutôt tendance à essayer de travailler avec eux pour à l'avenir éviter que ce genre de problème se reproduise, plutôt que tout de suite prendre l'aspect attaquant et dire attention, vous avez fait quelque chose de très mal et ça nous a coûté beaucoup de dégâts, etc. C'est plus l'idée du logiciel libre en général, c'est plus d'être sur une communauté où tout le monde travaille ensemble et où personne n'est exempt de faire des erreurs ou de faire des bêtises un moment ou un autre. On a nous-mêmes suffisamment eu déjà des soucis ou des problèmes ou des bugs parce qu'on n'avait pas assez de tests ou parce qu'il y a tellement de possibilités de tests que c'est difficile de faire un passage exhaustif sur tout ce qu'on fait. Notre optique, c'est plus de dire s'il y a un problème, on fait tout ce qu'on peut pour le corriger. C'est comment en dernier recours où on pourra éventuellement avoir des recours légaux ou etc. Mais c'est pas du tout notre mentalité d'avoir un recours légal par rapport à ça.
Ce qui est tout à fait cohérent.
Tout à fait. Warly, un dernier mot pour nous parler de l'avenir de Mandrakesoft. Bon, je crois que la décision concernant Mandrakesoft, c'est au 13 janvier. Donc je crois que vers le 13 janvier, on devra avoir des formations sur la pérennité du suivi de Mandrake.
Non. Donc, alors, ce qui se passe par rapport à ça, il y a 2 choses, effectivement. Il y a le fait que Mandrakesoft, société commerciale, effectivement, est en redressement judiciaire depuis le 13 janvier, donc 2002.
Oui.
Nous espérons, au vu des finances, au vu du fait que nous sommes maintenant à peu près équilibrés, et où les mois qui viennent, a priori, seront tout à fait corrects, nous espérons sortir de cette période de redressement judiciaire au mois de janvier, donc revenir à un type de société classique, donc qui assurerait la pérennité de la distribution. Cela dit, la distribution existerait aussi grâce à la communauté, parce que comme je vous l'ai dit,
tout à fait.
Une grande partie du travail sur la distribution est faite par la communauté. Donc actuellement, la 10.0, qui est la prochaine version de Mandrake Linux, est en cours d'être élaborée. On devrait avoir rapidement une première bêta au courant du mois de décembre, normalement, si tout se passe bien.
Avec un noyau de 6
avec le noyau de 6 sera de toute façon fourni, comme il a déjà été fourni avec la version 9.2. Ne serait-ce que parce que, de toute façon, c'est l'avenir, entre guillemets, et aussi parce que les gens le veulent, etc. Cela dit, il faut savoir qu'un noyau, quand il sort, il y a quand même un certain part de risque non négligeable. Donc toutes les personnes qui ont des machines un petit peu anciennes ou qui ont été bien testées avec le 2.4, mais pas encore avec le 2.6, on peut pas, du jour au lendemain, passer du 2.6 comme ça. Donc il y aura toute une phase où il y aura une cohabitation entre les deux, où les utilisateurs pourront choisir soit l'un, soit l'autre, suivant leurs besoins et leur matériel. Mais le noyau 2.6 sera tout à fait fourni. Déjà, la 9.2 était, on va dire, 2.6 ready, entre guillemets, ou dans la mesure où vous pouvez très bien installer le noyau de site livré avec la 9.2 et il marchait plutôt bien. Il restait quand même une version, c'était encore une version test bien sûr, mais il marchait quand même plutôt bien. Donc l'avenir, bah, pour l'instant, il est assez positif. Hein. On a toute une gamme de produits qui est toujours prévue. Donc la 10.0 devrait sortir d'ici mars ou avril de l'année prochaine. Et puis s'enchaîneront ensuite les différentes versions autour de ça. Donc la version cluster, la version entreprise, etc. etc.
D'accord, très bien. Ben, nous te remercions d'avoir répondu à nos questions et à très bientôt, Warly.
Merci.
Merci. Au revoir. Au revoir.
Voilà, eh bien, sachez-le, la Mandrake 9.2 est disponible, elle est partout.
On peut l'acheter dans tous les bons magasins.
On peut l'acheter dans tous les bons magasins.
Et la télécharger.
On peut la télécharger gratuitement sur Internet. On peut aussi devenir, donc, en payant un membre du club et soutenir ainsi la Mandrake. Et Jean-Claude.
Oui, je voudrais insister sur ce point pour rappeler que Mandrake Soft est le... quasiment la seule, puisqu'Albert vient de me dire qu'il y avait un autre éditeur de système d'exploitation en France.
Notre distribution.
Mais est le seul éditeur de système d'exploitation en France, que c'est probablement, si les choses se font correctement, la garantie que nous disposerons d'un système d'exploitation valable pour tout le monde et qui nous garantisse vraiment l'indépendance. Pour nous Français, comme pour d'autres pays européens ou non européens, et que la meilleure façon de faire en sorte que cette société continue d'exister, c'est d'adhérer. Si vous utilisez Mandrake Soft, ça semble évident, mais même si vous n'utilisez pas un système Mandrake Soft sur votre ordinateur, dépenser 60 euros pour garantir l'indépendance nationale, c'est à mon avis aussi important que de donner par exemple 60 euros au Téléthon qui va se tenir bientôt. Il s'agit du bien commun, il s'agit de l'indépendance de l'Europe, pour ne pas parler que de la France.
Tout à fait.
Voilà, alors si vous avez plein de sous, vous pouvez donner plein de sous à tout le monde, à Mandrake, au Téléthon, au Radioton, on pourrait faire un divergenton aussi. On pourrait faire...
Absolument, moi je suis pour.
Le ton, c'est bon. Trêve de baliverne, il nous reste un petit quart d'heure qu'on va consacrer à la vidéo sous Linux avant de terminer sur l'agenda. Il faudrait aussi dire un mot de la communication du pseudo
manifeste.
Du pseudo manifeste, voilà, il va retrouver ses mots le garçon. Du pseudo manifeste d'André Pasqua. Alors par quoi on commence? Un bref mot peut-être sur ce manifeste avant de se divertir en vidéo.
Oui, alors comme nous sommes un peu en retard, je ne vais pas du tout m'attarder sur cette question, mais juste dire que si vous avez un ordinateur et une connexion Internet, allez voir le site www.abul.org et regardez sur la première page, vous allez voir un lien sur un article qui est titré « Pseudo-manifeste ». Il est écrit par André Pasquale. André Pasquale, c'est un graphiste convaincu qui utilise des systèmes libres depuis bien longtemps et qui, dans une réunion de la Bulle, donc Association Bordelaise des Utilisateurs de Linux, s'est été un peu emporté parce que pour une manifestation, on devait faire un logo et quelqu'un a proposé un logo qui n'était pas fait avec des logiciels libres. Et du coup, André Pasquale a écrit un texte bien senti qu'il a intitulé modestement pseudo-manifeste, mais qui est en réalité un véritable manifeste qui appelle les militants du libre, les utilisateurs du libre, à utiliser des outils libres pour promouvoir le libre, ce qui me paraît d'une honnêteté intellectuelle irréprochable. Et lisez ce pseudo-manifeste, parce que vraiment, là, tout le monde se sent concerné et comprend qu'il faut être cohérent. On ne peut pas parler de liberté et en même temps faire autre chose pour soi-même.
Voilà, je crois que ça soulevait directement la question de la cohérence de tout ça, c'est-à-dire que le logo n'a pas plu pour des questions de contenu, mais néanmoins, on a fait ensuite appel avec une boîte privée qui c'est pas gratuit, qui a proposé un logo, et puis c'était du PSD. Alors, lui, il trouve pas ça très cohérent, et il a tout à fait raison, parce qu'on peut pas se revendiquer du libre, etc., et puis imposer, entre guillemets, des choses qui le soient pas, quoi. Donc, je crois qu'il a bien appuyé là où ça faisait mal, à en juger par le nombre, parce que ça a déclenché un troll fluvial, hein, c'est-à-dire une longue liste de discussions où tout le monde s'en est donné à cœur joie pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord, mais il pointe un petit peu les graphistes du doigt en disant « Oui, vous êtes bien gentils, mais à chaque fois vous dites « Oui, moi j'utilise quand même machin parce que les CMJN, etc. » En fait, il les accuse, je crois, un petit peu à raison d'une certaine fainéantise, de non vouloir aborder des solutions plutôt que de dénoncer les problèmes avec les logiciels libres. Je crois qu'il faut rayer un petit peu une sorte de mauvaise foi qu'il peut y avoir chez certains professionnels.
Quoi. C'est le deuxième côté de ce pseudo-manifeste, c'est-à-dire en dehors du premier fait que j'ai soulevé, qui est de rappeler aux utilisateurs du libre qu'il faut travailler évidemment avec des outils libres, surtout quand on veut le promouvoir. Le deuxième côté, c'était cela, c'était le fait que beaucoup de graphistes professionnels qui sortent d'une école professionnelle travaillent avec des outils propriétaires, considèrent que ces outils propriétaires sont les leurs et qu'il n'y a pas mieux, et ne vont pas voir ce qui existe par ailleurs. Et donc André Pasquale les a rappelé gentiment mais fermement à l'ordre en leur disant « Messieurs, sortez de vos vieilles habitudes et allez voir donc si la nouvelle voiture vendue par Monsieur Intel marche aussi bien que votre vieille voiture. »
http://, Anthony voulait apporter une précision, oui. Juste rajouter que
parfait accord avec moi-même. Lorsqu'à l'ECM, on fera de la vidéo sous Linux également.
Voilà, ben on va y venir. Je vous rappelle l'adresse http://abul.org/article71. Vous tombez directement dessus.
La Bulle est l'association bordelaise des utilisateurs de Linux.
Voilà. Alors la vidéo sous Linux, déjà que sous Windows, les gens ils galèrent des fois à transformer leur rêve de montage vidéo en réalité visuelle. Sous Linux, y a-t-il des outils? Qu'est-ce qui se passe?
Vaste sujet en fait. J'aurais aimé avoir un peu plus de temps pour aborder
mais
ça.
Mais il nous reste une dizaine de minutes puisqu'on a commencé un petit peu en
retard. On va essayer de faire bien. En fait, pour introduire le sujet, donc il y a les machines utilisateurs grand public sont de plus en plus puissantes. Les caméras numériques sont de moins en moins chères et deviennent même abordables à des tarifs abordables. Donc il est temps. Enfin, beaucoup de gens maintenant demandent à pouvoir faire de la vidéo sous leur système d'exploitation, quel qu'il soit. Premier point. Deuxième point, il y a quelques années, je m'étais penché sur le sujet avec le Linux notamment, et j'avais renoncé en me disant Linux n'est pas prêt à accepter encore ce gros truc qu'est la vidéo, parce que
le montage vidéo
parce que ça demande des ressources et un travail en amont énorme. Donc j'ai laissé tomber, et récemment je me suis repenché sur le sujet et j'ai été très satisfait de Linux dans le domaine et des progressions fulgurantes qu'il a fait en un ou deux ans. Donc je voudrais aborder deux points, en fait deux volets plutôt, le montage numérique lui-même, c'est-à-dire faire son film avec Linux, avec son système d'exploitation, acquérir l'image à partir de la caméra, puis faire fabriquer son film proprement dit. Et le deuxième volet, si j'ai le temps, ce serait la diffusion sur Internet, parce que maintenant on a les moyens de diffuser de la vidéo sous Internet de manière assez facile, disons.
Alors tout à fait. Alors pour le montage, je crois qu'il y a deux softs, hein, c'est Kino et Main Actor.
Alors j'ai retenu deux softs, mais c'est deux softs dont on m'avait parlé et dont j'ai essayé de tester les possibilités. Le logiciel libre Kino, qui lui est libre. Alors je donnerai les adresses web à la fin, donnerai une référence unique pour les adresses web. Donc Kino, qui est un logiciel de montage non linéaire. Donc ça peut paraître un peu déroutant quand on a l'habitude des logiciels semi-professionnels ou professionnels sous d'autres OS. Et ensuite Main Actor, qui est lui un logiciel professionnel et propriétaire par contre, mais qui est distribué depuis quelques temps sous Linux et qui est un véritable logiciel professionnel, très abordable sous d'autres OS, notamment sous Windows, aux alentours de 150€. Donc pour un logiciel de montage, c'est rien du tout, c'est pas cher. Main Actor est donc disponible gratuitement aussi sous Linux et notamment facilement sous Mandrake grâce à un RPM distribué par Main Actor.
Voilà. Donc ça, c'est pour la partie montage. Peut-être un petit détail sur cette partie montage. Tu disais que Kino est un logiciel de montage non linéaire. Qu'est-ce que ça veut dire?
En gros, je suis pas monteur moi-même, mais en gros, on a une ligne de temps sous les logiciels de montage professionnels, une ligne de temps sur laquelle on va mettre ces images et facilement se repérer sur une ligne temporaire. Kino, lui, n'est pas fait de la même manière, mais il est parfaitement destiné à un usage particulier. Je dirais pas professionnel ni semi-professionnel, mais un usage particulier. Main Actor, lui, quant à lui, est un vrai logiciel de montage. Je l'ai testé et il permet de faire un travail beaucoup plus sophistiqué. Par contre, ça reste, je dirais pas que c'est facile de faire la vidéo sous Linux. C'est pas vrai parce qu'il y a des problèmes de codec. Le codec, c'est en fait ce qui permet de coder, encodeur, décodeur, ce qui permet d'encoder la vidéo. Donc, ça reste pas facile, je dirais. Ça reste faisable.
Pour connaître le monde propriétaire de la vidéo et du montage, ce que je peux dire, c'est que les logiciels qu'on trouve sous Linux, soit Kino ou Main Actor, surtout Main Actor en fait, c'est exactement la même chose dans le monde Windows ou dans le monde Mac. Donc en fait, ces logiciels-là, qu'on soit sur n'importe quelle station, du moment qu'ils sont professionnels, ont chacun une interface qui est quasiment identique. Donc qu'on soit sous Linux, qu'on soit sous Mac, qu'on soit sous Windows, à part quand on travaille avec des petits logiciels pour s'amuser pour les particuliers, ils sont tous faits sur le même moule. Donc c'est pas plus difficile de le faire sous Linux, sous Windows ou sous macOS.
Alors en ce qui concerne... Oui, Jean-Claude.
Oui, je voudrais juste apporter une précision à propos de Kino. Kino n'est pas un logiciel linéaire, comme tu viens de le dire si bien, mais normalement, il le sera d'ici quelques temps, et il faut savoir que c'est un projet qui est très jeune, qui s'est développé très rapidement. Il y a des fonctions qui ne sont pas encore implémentées, et donc quand on regarde le cahier des charges du programme, elles seront implémentées dans un avenir plus ou moins lointain. Et puis dernière chose, mais peut-être que tu allais en parler, si je te grille tu me le dis, il existe aussi d'autres types de logiciels de vidéo sous Linux qui ne sont évidemment pas à la portée des utilisateurs ordinaires, mais qui sont utilisés dans l'industrie cinématographique de façon quotidienne. Et je dis ça simplement pour montrer que les professionnels, depuis longtemps, ont compris que Linux était la solution idéale pour résoudre leurs problèmes. Il n'y a donc pas de raison pour que les particuliers ne fassent pas de même.
Est-ce que ça veut dire que les stations à vide tournent sur Linux ?
Les stations
à vide, le logiciel de montage professionnel.
Pas encore.
Pas encore. Alors, en ce qui concerne diffuser ces merveilleux films...
Je vais faire le lien avec... alors, José Bové, ne te précipite pas sur le téléphone pour appeler Divergence. Je vais faire le lien avec l'OGM. L'OGM, qui est un encapsuleur de vidéo. En fait, c'est un peu comme l'AVI, qui est un encapsuleur libre, qui permet de faire de la vidéo de manière quasiment libre, parce qu'aujourd'hui, il y a des problèmes avec OpenDivX, la version 5, je crois, qui est pas sous GPL, d'après ce que j'ai entendu. Mais bon, donc, l'OGM permet d'encapsuler de la vidéo et de faire de la vidéo sous un format libre. Pour la diffusion, en fait, il y a le moyen d'Internet. J'ai découvert ça par hasard, en fait, en travaillant, parce que je travaille avec d'autres structures concernant le streaming MP4. Le streaming MP4, c'est la possibilité de diffuser en temps réel un événement sur Internet. Et là, avec le MP4, de manière libre. Je vais juste donner le nom du logiciel MP4IP qui permet de diffuser de la vidéo en streaming MP4. Et autre point avant de te laisser la parole, Albert, j'ai découvert par hasard que Icecast, qui permet de faire de la diffusion audio, permet également de streamer de l'OGM, ce que j'ai fait. Alors ça, je vais vous donner une adresse maintenant et retenez-la, c'est http://radio.hero.info. Et sur cette page, j'ai fait un lien spécial pour cette émission en donnant les adresses exactes, enfin des adresses web de Kino, Main Actor. Et je vais faire un lien également sur une page de développement que je suis en train de mettre au point pour expliquer comment diffuser en streaming un fichier OGM.
Voilà. Et on peut noter aussi un point. On a souvent parlé de Peercast. On espère d'ailleurs bientôt pouvoir émettre en Peercast sur Divergence. Et Peercast, qui permet de faire du P2P audio pour les émissions radio, permet aussi maintenant de le faire en OGM. Mm-hmm. Donc, sur un format qui s'appelle un SV. Bon, c'est toujours des abréviations, mais c'est aussi un futur qui devrait être très intéressant pour ce qu'on appelle le streaming, c'est-à-dire la diffusion en temps réel d'images et de sons. Et avec Peercast, c'est aussi possible.
Alors, j'aimerais bien revenir sur Kino en ce qui concerne le montage. Jean-Claude faisait fort justement la remarque qu'il y a plein de fonctions qui sont pas encore implémentées, mais qui sont prévues de l'être très bientôt. Je voudrais à ce titre simplement rappeler Audacity, un logiciel assez connu, libre pour faire du montage audio numérique, du son. Entre la version qui contenait aucun traitement ou modulation, à savoir écho, flanger, reverb, time stretching et compagnie, la version d'après, il y avait tout ça. Donc il faut s'attendre à ce que ça puisse aller très très vite dans le monde des logiciels libres quand un projet voit le jour et quand il manque quelques options. Faut peut-être pas s'affoler et se dire dans 3 semaines ça y est.
Parfaitement d'accord avec ce que tu viens de dire.
Plus de gens s'y intéresseront justement, plus le développement va aller vite. Ce sera exponentiel.
Voilà, alors l'émission va bientôt toucher à sa fin, il doit nous rester 4 minutes à peu près, voilà, on confirme ça avec l'alphabet des doigts. Eh bien, je vais me tourner bien vers vous trois pour un éventuel agenda. Que va-t-il donc se passer? Quelques dates qui traînent dans les limbes de nos lobes respectifs?
Il y a, dans les prochains événements en cours, il y a le 6 décembre sur Paris, l'Assemblée Générale de l'IA Linux. Qui en fait va rassembler beaucoup en fait de membres d'associations diverses. dans Linux French et voilà. Tuxamini. Il y aura après le 2, le 3, 4 et 5 février Linux Solutions. Linux Solutions, c'est la conférence phare Linux en France qui regroupe associations et professionnels. Quelques jours après, mais je n'ai pas encore les dates, ce sera le FOSDEM. C'est une manifestation qui se passe en Belgique. En Belgique, c'est ça. Qui dure aussi sur 3-4 jours et qui par contre elle est beaucoup plus destinée aux développeurs. Et après nous avons la manifestation sur le jeu. Nous avons interviewé l'un des responsables lors de la dernière émission, dont qui se passe dans le centre de la France. J'ai un trou de mémoire.
Dixit, vous retrouverez la précédente émission sur http://radio.ero.info puisque c'est là qu'on les retrouve. Voilà. Alternative 87.
Et c'est donc le département 87, donc c'est dans la Limousin.
Voilà, Haute-Vienne, voilà.
Voilà, puis c'est pas pour tout de suite. On rappelle que sur cette adresse http://radio.ero.info.
Ero, R-A-U-T, je précise parce que c'est pas le département, donc.
Voilà, R-A-U-T. Mettez pas le L. On retrouve donc les précédentes divergences numériques et donc aussi tous les liens qui étaient prévus pour ce qui concerne la vidéo. Abul.org, A-B-U-L.org, oui, Abul.org, bien évidemment.
C'est bien ça, oui, l'association bordelaise des utilisateurs de Linux qui est... Faut-il le rappeler, l'association dont les certains membres, tels que Pierre Jarivion, qui a fondé la rencontre mondiale du logiciel libre qui a lieu tous les ans et qui est vraiment un grand événement mondial. Voilà. Et puis, si vous me permettez, je voudrais suggérer à nos auditeurs qui disposent d'Internet, parce que on a malheureusement, on oublie de temps en temps qu'on s'adresse à des gens qui ne sont pas forcément des spécialistes et on utilise des sigles qui sont imbuvables à entendre. Alors, écrivez-nous sur Divergence FM, sur Linux French ou sur ECM Kawenga.
Ou sur Léa Linux.
Ou sur Léa Linux. Et nous vous répondrons pour vous renseigner sur les termes qui éventuellement vous poseraient un problème. Merci.
Voilà, merci à tous de nous avoir écoutés. On salue eh bien les auditeurs qui sont pas en direct et qui nous écoutent sur le CD Linux Magazine France. Et puis on se retrouve le mois prochain pour une édition du mois de décembre qui risque fort d'être fort musicale.
Et très spéciale, donc. Nous parlerons en fait très peu lors de la prochaine émission. Nous vous expliquerons ce que sont les différentes licences libres musicales. Et ce sera une émission qui sera principalement musicale.
Voilà, c'est dit. On remercie Caroline Novara qui a assuré la réalisation technique de cette émission sur Divergence FM. On vous souhaite une très bonne soirée, matin, quelle que soit l'heure à laquelle vous écoutez. Et puis on vous rappelle que Divergence numérique, c'est sur www.divergence-fm.com. C'est sur le 93.9 dans la région de Montpellier. Et c'est
bientôt bien, sur hein, Peercast.
C'est pas mal,
hein, ouais, c'est bien.
Et c'est bientôt sur Peercast. Voilà, passez une bonne soirée à tous.
Et salut, dans un mois. France.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Donc en fait, Divergence FM 93.9. Donc en fait, Divergence FM 93.9.